Tous, bienvenue à votre Ciné Brunch, émission spéciale cette semaine sur le FCMS, le Festival du cinéma du monde de Sherbrooke. Et je suis en compagnie d'une équipe agrandie cette semaine, comme vous l'avez entendu la semaine dernière quand on a annoncé la bonne nouvelle. Donc, je suis en compagnie, comme chaque semaine, de Mélina Lopez-Nadeau.
Bonjour.
De François Genet.
Bonjour.
Et de Julie Desmarais. Bonjour.
Bonjour.
Et justement, Julie, tu as été au festival et finalement, le film d'ouverture...
Eh bien, en fait, ce fut un tel succès que nous ne pûmes y assister. Alors,
quel temps de verbe!
Car à 17h01, c'était complet.
Oui, et pourtant, c'est une grande salle, donc...
Et voilà, donc...
On sent l'engouement.
Un excellent succès pour le film de Cinéma de Sherbrooke. Donc, on leur dit félicitations.
Oui.
Et il paraît que le 5 à 7 était un succès également. Donc, bien apprécié.
Avec des petites bouchées de pizzicato.
Voilà.
Voilà. Bon, bien, excellent, ça. François, de ton côté?
Oui, ben en fait, on a appris cette semaine que dans Toy Story 4, qui va sortir le 21 juin prochain, François Bellefeuille va avoir une voix là-dedans.
C'est vrai?
Oui,
c'est
tout à fait. Il va faire la voix de Fourchette, un nouveau personnage qui est une fourchette, puis il sait pas qu'il est une fourchette, puis il comprend pas sa raison d'être dans la vie.
Mais c'est non, on parle dans le doublage.
Dans le doublage, tout à fait. Oui, okay. Non, il va pas être là en dessin animé dans le truc. Il a des cheveux ébouriffés, mais pas tant pour qu'on l'appelle Fourchette. Mais donc, c'est ça. Donc, il va se prêter la voix à Fourchette dans la version québécoise, évidemment.
Toy Story 4. Eh bien, j'ai hâte de voir ça parce que j'avais adoré le 3. Personnellement, ça fait quelques années quand même. Là.
Oui, tout à fait. La fin était magique de Toy Story 3. Donc là, faut pas tout briser
ça. Il y a toujours un risque.
Il y a toujours le risque, mais là.
C'est les petits-enfants, c'est sûr.
Ben, c'est ça. Mais Fourchette avec François Bellefeuille, ça sent le.
C'est
gagnant.
Ça ébouriffe, en tout cas.
Tout à fait.
Excellent. Merci de voir ça. Mélina.
Hey, moi, j'ai une grande nouvelle concernant la Maison du cinéma. Oh. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont là ce week-end et cette semaine là, pour le FCMS, justement. Mais il m'est arrivé une aventure vraiment spectaculaire. Et je vais vous raconter en fait une histoire pour illustrer la nouvelle que j'ai à propos de la Maison du cinéma.
Okay. Oh.
Donc, cette semaine, je suis allée au cinéma, hein, comme toutes les semaines.
Oui.
Et là, je voulais commander un popcorn, comme ça m'arrive à quelques reprises. Hein. Et là, je trouve pas ma carte débit dans mon portefeuille. Alors je dis au gars, ben laisse faire, je prendrai pas de popcorn parce que j'ai pas ma carte débit, parce que j'avais pas d'argent liquide.
Oh.
Alors là, je suis vraiment déçue. Le gars, il remet le popcorn au chaud.
Non,
là, je suis triste. Puis je comprends.
C'est comme une mauvaise fin de Toy Story 3, mettons.
Ben, oui, c'est ça. Là, je marmonne ma carte débit. Puis là, le gars, il revient et il dit, ouais, mais maintenant que j'y pense, on prend les cartes de crédit maintenant, depuis le temps des fêtes.
Et c'est tellement une bonne nouvelle.
Enfin. Voilà.
Ah, fait que t'as eu ton popcorn.
Fait que j'ai eu mon popcorn.
Il a ressorti.
C'est
vraiment une
bonne nouvelle. Il a ressorti, ouais. Oh.
C'est vrai, ça faisait... Oui, ça faisait...
Du popcorn réchauffé.
Il y avait un petit retard là, au niveau des paiements par carte, oui. Mais qui est rétabli maintenant. Donc, c'est une bonne nouvelle.
Donc, voilà, c'est ça. La Maison du cinéma, carte de crédit. 2019.
Les gens vont pouvoir enfin s'endetter au cinéma.
Ben oui.
On va redonner le popcorn à César qui
appartient au popcorn.
J'ajouterais une dernière chose. Quand tu penses que tu vas pas avoir quelque chose puis que tu l'as après, t'en profites encore plus. Donc
c'est bien vrai,
le bonheur du popcorn était vraiment.
C'est comme ça avec mon diplôme de la maternelle.
C'est comme le Kino Show, hein?
Oui.
On n'en aura pas ce mois-ci.
Il n'y en aura pas.
Ça fait en sorte qu'on va l'apprécier encore plus le mois prochain.
Exactement.
Excellent. De mon côté, ben moi, je vais vous parler du magasin d'électronique Addison. Vous avez demandé.
Oh, mon Dieu.
Quoi le rapport?
Et attention, on cherche le lien.
Mais il y en a un. Je sais que François, tu es au courant. Parce que la compagnie a décidé, ça fait plusieurs mois là, de ça, là, je pense. Là, en tout cas, moi, je m'en suis rendu compte aujourd'hui, mais ce n'est pas nouveau. Ben la compagnie Addison a décidé de créer une web-série donc, qui parle
t'es
et qui se passe dans la boutique Addison avec des faux employés, des acteurs qui incarnent des employés. Et j'ai écouté quelques épisodes et c'était franchement pas mauvais du tout.
Ah.
C'était très drôle. Et dynamique. Je vous dis, honnêtement, allez voir ça, ça vaut la peine. Allez sur le site d'Addison Electronics, c'est facile à trouver sur Google. Vous allez voir en haut, il y a la bannière avec une espèce de cambrileur avec un bot de nylon sur la tête. C'est complètement absurde, mais je vous dis, ça vaut la
ça
peine.
Vaut le détour.
Oui,
le détour web.
Exactement. Vous n'avez même pas besoin de traverser la 40. C'est directement sur votre...
C'est sécuritaire.
C'est sécuritaire. Exactement. Donc voilà, c'est le moment de votre cinébrunch. un peu plus tard dans l'émission, on va critiquer pour vous. Ben, en fait, dans quelques minutes, on critique le film pour vous. Le film
Dumbo.
Merci. Merci.
J'ai des grandes oreilles. J'écoute aux portes. C'est ça l'affaire.
Exactement.
C'est ça qui arrive.
Et voilà. Et évidemment, on vous parle du FCMS, du festival, des films du festival, du cinéma du monde de Sherbrooke tout au long de cette émission. Voici votre Cinébrunch. Mélina, tu es allée voir un film, grandiose qui nage dans le ciel
oui,
avec ses grandes oreilles.
Éléphantesque,
voilà. Et donc, voilà, oui, on parle bien de Dumbo.
Exactement. Donc, le tout récent film qui a été réalisé par Tim Burton, quand même. On avait...
Qui est Tim Burton?
C'était
mon
voisin.
Non, c'est une
oui,
blague.
Non, mais c'est ça. En fait.
Jamais rien fait de bon, hein, je pense.
Ouais, ça dépend des goûts, en fait. Mais, bon, mais moi, on va y aller direct de même. Bam! Moi, j'avais peur que, parce que vous savez que Tim Burton avait refait Alice au Pays des Merveilles.
Oui, tout à fait.
Il y a quelques années. Ouais. Et c'était intense comme film. C'était vraiment, ouais. c'était du Tim Burton, mais dans son absurdité, tu sais, comme on était loin dans l'échelle de Tim Burton.
Éclaté.
Oui. Ouais. J'avais peur que Dumbo aille trop fort là-dedans. Et non, c'était juste parfait dans ce niveau-là. Donc ça fonctionne très bien. Donc, quand même. Mais bon, je vais faire ma critique dans l'ordre avant de perdre tout le monde. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qui Dumbo?
On imagine un éléphant avec une perruque. Puis,
Ben, c'est ça. On se demande c'est qui, hein?
Oui,
c'est Dumbo, en fait, c'est basé sur un film qui est sorti quand même en 1941. Donc, bientôt 80 ans hein, pour Dumbo.
Ouais. Wow.
De Walt Disney. Un éléphant aux grandes oreilles, donc, qui lui permet de voler. Là, on a une histoire qui est différente de celle du Dumbo original.
Ah, okay.
Donc, il ne faut pas aller là en pensant qu'on va revoir l'histoire de Dumbo qu'on a vu quand on était jeune. Là, c'est pas le
ça fait juste reprendre les personnages, au final.
Exactement.
Oui,
puis ça rallonge l'histoire, ça rend ça encore plus... Ben, vous savez comment Disney a la capacité de prendre ton cœur puis de piler dessus.
Oui,
là,
tout à fait.
Faire, après ça, le RCR là, pour qu'il revive. Là. Donc, ils réussissent encore à faire ça. Donc, on va dans des émotions extrêmes qui sont pas nécessairement la tristesse. On va dans un peu la peur ou l'appréhension, ou des choses comme ça. Donc, très bien réussi. J'ai beaucoup aimé les expressions du petit Dumbo, du petit éléphant. C'était magnifiquement bien réussi. Et les acteurs aussi. Moi, je les ai trouvés bons. Écoutez, ça fait pas...
Est-ce que l'éléphant était bon?
L'éléphant était
très
bon.
C'est ma question.
Moi, en fait, puis je veux pas partir une discussion, mais moi, en fait, l'éléphant, tout le long, ses traits étaient tellement beaux que je pensais que c'était une femelle éléphant. Puis je me disais, non, c'est pas une femelle éléphant, c'est Dumbo. Mais elle était belle! Mais il était beau! L'éléphant était tellement beau! Ah, c'était mignon, c'était vraiment mignon.
C'est un éléphant androgyne, comme s'il est beau pour tous les... pour tout le monde.
Pour tout le monde, c'est ça.
C'est un éléphant non binaire.
Ouais.
C'est ça. Oui.
Mais est-ce qu'on a une bande-annonce?
Bien
de
sûr,
Dumbo?
Bien sûr.
Mais allons écouter la bande-annonce.
Écoutons ça.
Vous possédez quelque chose de très rare. Un mélange de merveilleux. De mystère. De magie. Venez avec moi. Ensemble, sur les ailes de cet éléphant, nous irons très loin.
Que se passe-t-il? Où l'emmène-t-il?
Conduis Dumbo à l'intérieur.
Mais c'est sa mère! Fais quelque chose! Il a besoin de nous. Regarde-moi. Nous ramènerons ta maman à la maison.
Oui, donc voilà, le dramatique film Dumbo, c'est ça?
Mais oui, mais ça a toujours un petit côté dramatique. Vous savez, c'est Disney aime bien faire les histoires où la mère, il se passe quelque chose avec la mère.
C'est vrai.
Du,
comme dans Bambi, notamment.
Oui, entre autres.
Faut pas me spoiler. Non, OK.
Donc, c'est ça, les acteurs, on va en parler un peu. Donc, on a quand même Colin Farrell, Eva Green, Michael Keaton, Danny DeVito, Alan Arkin et Sandy Martin. Donc, il y a quand même des gros noms, des moins, des enfants aussi. Là, c'est vraiment là, on y va vraiment. C'est les enfants qui entraînent Dumbo à voler. C'est pas, comme je le disais là, un peu avant qu'on écoute la bande-annonce, faut pas s'attendre, faut pas aller là en pensant qu'on va revoir la même histoire que Dumbo. C'est pas nécessairement les mêmes choses qui fait en sorte que qui apprend à voler ou du moins qui vole. C'est pas nécessairement la même histoire, même si bon, c'est un éléphant dans un cirque. Et chose intéressante quand même, j'ai l'impression, du moins, il faudrait que je revoie le Dumbo original de 1941, mais j'ai l'impression que on a plus le côté sensibilisation un peu que c'est pas tant bien de faire travailler des animaux au profit de l'être humain.
Donc, dans le cirque et tout ça, là. Okay, ouais, cette image-là. Là.
Okay. Oui, mais ouais. T'sais, c'est subtil. T'sais, c'est, le film n'est pas sur ça, mais j'ai l'impression qu'on l'aborde peut-être un peu plus que dans le film original.
Parce que tu avais vu un film sur ce concept-là de cirque, je pense, l'année dernière.
Oui, le cirque de P.T. Barnum, je me souviens. Le Greatest Showman. Ouais.
Et c'est ça, ouais. On est ailleurs. Là.
On est complètement ailleurs. Bon, mais on reste quand même là. On reste quand même dans un Disney. On le voit que c'est un Disney. C'est pas. J'aurais envie de dire que c'est pas un Disney pour très jeunes enfants, dans le sens que ça dépend, parce que très jeunes enfants, généralement, ils comprennent pas vraiment le film, donc c'est correct de les amener voir ça parce que ça reste visuellement exceptionnel. Beau, ouais. Mais les thèmes qu'on aborde, c'est quand même rough. Peut-être que c'est moi ça faisait trop longtemps qu'il n'avait pas vu un film de Disney, mais tu sais, c'est difficile, là. T'es sur le bord de ton siège, puis je sais pas. C'est peut-être juste moi aussi qui prends ça trop à cœur, mais...
Il y a eu des Disney un peu rough, quand même. Pas sur Notre-Dame, il y a eu des affaires un peu...
C'est vrai que le Roi Lion, c'est ça,
Il y a souvent des meurtres, là, puis pas beaucoup de mystères.
Ils ont tendance à l'amener d'une façon que la tension monte, là. Pleurer à plusieurs reprises.
Mais ça finit toujours bien, normalement.
Ben, c'est ça. Mais j'ai quand même pleuré à plusieurs reprises. Bref, j'ai vécu vraiment une belle expérience. J'avais la salle à moi tout seul. C'était vraiment cool.
Parce que tout le monde est au festival.
Ben, c'est ça.
Oui, c'est
vrai.
Et
vous savez,
il y avait un éléphant dans la salle.
C'était moi. J'ai et une dernière chose que j'ai envie de mentionner, je ne sais pas si vous, ceux qui se souviennent de Dumbo, il y a la fameuse marche de l'éléphant rose là, qui est un peu psychédélique là, dans le Dumbo original.
Ouais.
Là, on reprend, on a gardé ces trucs-là qui sont vraiment comme significatifs, mais c'est pas du tout mis dans le même contexte, c'est pas fait de la même façon, mais on a ce moment-là un peu weird du Dumbo original. Donc allez-y quand même. Moi, j'ai aimé ça. Faut que je le dise.
Ben écoute, moi, ça me donne envie d'aller le voir. J'aurais voulu y aller, je peux pas.
8 sur 10.
C'est pas mal.
Ouais,
excellent.
Voilà, c'est ça. Allez-y.
Super. Merci, Mélina, pour cette critique du film Dumbo. De retour à Cinébrunch, vous écoutez donc cette émission spéciale consacrée au FCMS, au Festival de cinéma du monde de Sherbrooke. Et nous entamons donc concrètement le vif du sujet avec donc nos critiques des films qui étaient présentés au Festival du cinéma du monde qui a commencé jeudi. Donc évidemment, bon, c'est des films d'hier, donc vendredi.
Oui, c'est encore tout chaud.
Il y en aura encore jusqu'à mercredi prochain. Oui. Jeudi.
On dormira pas jusqu'à jeudi.
C'est fini. De toute façon, on dormira quand on sera mort. Voilà, et on va entrer dans le vif du sujet. Pour ce premier bloc, en fait, Julie et moi allons vous présenter différents films qu'on a vus. Et par la suite, plus tard dans l'émission, il y aura François et Mélina qui feront de même. Mm-hmm. Donc voilà, j'ai envie de te dire, Julie, commençons tout de suite avec un premier film à nous présenter.
Parfait. Donc en premier lieu, je vais vous parler de Virus Tropical. Alors, c'est un film d'animation colombien qui est basé sur le roman graphique fait par Power Paula, avec une animation de David Restrepo Zuluaga.
Tu prononces très bien.
Je me suis pratiquée. Alors, ce film qui est en noir et blanc est en fait le récit autobiographique de Power Paula. Et en fait, on assiste à une tranche de vie de cette dernière. Après sa conception surprise en 1976 à Quito, elle arrive dans une famille où sa sœur cadette lui fait la vie dure et sa sœur aînée la prend pour une poupée. Donc, au fil du film, on va suivre les séparations et retrouvailles des divers membres de la famille sur plusieurs années à travers l'Équateur et la Colombie. Ce sont surtout les personnages féminins qui sont plus développés dans ce film, en particulier ceux de la famille de Paola, tous les autres étant des acteurs vraiment éloignés qui interviennent avec la famille, mais qui n'ont pas vraiment de rôle très important. Ainsi, on apprend à connaître la mère un peu plus sur les nerfs, la grande Claudia qui veut étudier le design, la petite Patty qui s'est fait voler sa place de bébé dans la famille par Paola, puis donc elle veut se venger, bien sûr. Et Paola, elle, vogue au travers des drames quotidiens. C'est comme un petit bateau qui coule jamais. Donc, oui, Paola étant le personnage principal, j'aurais quand même aimé entendre un peu plus souvent sa voix intérieure, parce que souvent, on apprend qu'est-ce qu'elle pense par des dialogues avec autrui, alors que, tiens, j'aurais pas pensé qu'elle était rendue là dans son chemin. Ou bref. Mais des personnages vraiment attachants. C'était bien fait. Le graphisme, vraiment intéressant. Des belles techniques de dessin utilisées, des techniques différentes aussi. Comme un exemple, le film, par exemple, on voit beaucoup de crayons feutres, de crayons mine. Puis là, soudainement, les personnages regardent la télévision et c'est un style complètement différent, cool, seulement fait au crayon à mine.
OK, ben c'est ça. Fait que l'animation n'est pas toujours le même type d'animation.
Non, exactement. Okay. C'est très éclectique. Puis c'est vraiment le fun aussi. Une chose que j'ai vraiment aimée, la première scène de nuit. Donc, on tombe sur un écran totalement noir. Tous les traits sont en blanc. C'était vraiment magique. C'était très bien fait. Bon, c'est un univers réaliste qui est... Donc, on suit une famille dans les tribulations du quotidien. Donc, en opposition avec le dessin qui, lui, est complètement éclaté. On s'entend toutefois que si les personnages passent par plusieurs émotions, on est vraiment spectateur. On n'est pas nécessairement, on partage pas nécessairement leurs émotions parce que faut dire qu'ils en vivent beaucoup des émotions, là, beaucoup de justement de séparation et de retrouvailles. Oui, voilà.
Et tu lui donnerais combien à ce film?
Alors, moi, j'ai quand même bien aimé ce film et j'ai donné 7,5 sur 10. Cool, ça vaut la peine de le voir.
Parce qu'il va être diffusé, là.
Exactement, lundi à 18h30.
Donc, c'est un rendez-vous.
C'est un rendez-vous, oui. Fait une animation pour toute la famille, on pourrait dire?
Ben, ça va toucher moins les jeunes. Là. C'est plus la quête d'une adolescente vers le monde adulte.
OK, bon, quand même. Ouais. Intéressant.
Quand même un public large.
Ouais. Merci beaucoup. De mon côté, on va s'alterner ça. De mon côté, je vais vous parler du film Amine, donc un drame français réalisé par Philippe Faucon, qui est en fait le réalisateur qui nous avait donné le film Fatima en 2016. Donc, le film Amine met en vedette Mustapha Mbeng. Je suis pas mal certain que c'est pas comme ça que ça se prononce. Emmanuel Deveau, qu'on connaît assez bien parce qu'il est un peu partout. L'histoire, elle aussi, est assez simple. Donc, Amine, c'est un Sénégalais. Mais depuis environ 10 ans, il a quitté le Sénégal. Pas tout le temps, mais il quitte de temps en temps le Sénégal pour venir travailler en France, dans le milieu de la construction, en dessous de la table, bien sûr. Il envoie donc de l'argent dans son pays, ce qui permet à plusieurs personnes de vivre quand même de cet argent-là. Ses enfants et surtout sa femme, par contre, commencent à trouver le temps long un peu sans lui. Et en plus de ça, il commence une courte relation de concubinage avec une cliente française qui a des problèmes familiaux un petit peu excessifs. Voilà, le concept est intéressant, tout ça. On apprend à voir un peu les dédales du système de travail illégal français et de l'immigration par rapport à ça. Mais je vais être tout à fait honnête, ça ne m'a pas du tout jeté à terre, par contre, comme film. J'ai trouvé ça intéressant, tout l'aspect, donc, travail illégal, les conditions de vie de ces gens-là, le fait qu'ils n'ont pas d'assurance, quelqu'un se blesse, t'existes pas, là. Tout ça est intéressant. Mais c'était un peu plate. Donc, le film n'était pas vraiment captivant, disons ça comme ça.
Mais la réalité est plate aussi, Jim, des fois.
Sans doute. Merci de me ramener à l'ordre, François. Mais les acteurs sont bons, tout est correct, mais ça lève pas. Donc, on dirait qu'on y croit pas trop à ce film-là. C'est un peu arrangé avec le gars des vues. Et pour des situations qui arrivent, mais en même temps, c'est pas si exceptionnel que ça non plus. Fait que c'est comme... pas crédible parce que c'est trop, c'est pas crédible, mais c'est rien, c'est ça. Donc, bref, voilà. Donc, je m'éterniserai pas sur le sujet. Scénario un peu décousu, pas mal même. Donc, on parle d'un personnage secondaire au début du film, on lui donne beaucoup d'intérêt et il va y arriver quelque chose un peu plus tard, mais on a passé tellement de temps sur lui qu'on comprend pas pourquoi on le voit pas plus, pourquoi il y a pas un rôle plus important au bout du compte. Des choses comme ça. Donc, voilà. Donc, je donne un 7 sur 10 au film Amine.
C'est
pas,
7 sur 10, c'est quand même bien.
Oui, parce que... il n'y a pas d'erreur majeure dans ce film-là. C'est juste, ça lève juste pas.
Okay. C'est, des fois, c'est comme ça.
Il n'y a, a pas de gaz après, c'est tout.
Bon, ben, voilà. Pour poursuivre avec un 7 sur 10, mais totalement différent dans le feeling. Alors moi, j'ai vu Mon garçon, donc qui est un film réalisé par Christian Carion, qui co-signe également le scénario, un film franco-belge donc. Alors, on pourrait dire que c'est l'histoire du jeune Mathis qui disparaît un jour de classe vacances, mais en fait, c'est l'histoire de son père. Et je cite... c'est qu'il a décidé dans la vie de mettre la priorité sur son travail plutôt que sur son rôle de père. Donc, il est appelé par son ex-femme lors de la disparition du gamin et, évidemment, ébranlé, il se lance à l'enquête d'un indice à l'autre. Mais là, la question, c'est à la recherche de son fils, est-ce qu'il se perdra lui-même?
Oh! Oui. Évidemment.
Alors... une histoire, un classique, hein? Un parent dont l'enfant a disparu, qui fait l'enquête lui-même, que va-t-il se passer, il est un super-héros, bref. bon, le personnage de Julien est un... Le Julien, c'est, étant le père, là, est un homme qui a fait des choix difficiles. Puis son jeu d'acteur est vraiment excellent. D'ailleurs, c'est Guillaume Canet qui joue Julien. Et vraiment, ça fait ressortir justement son humanité, puis à quel point les choix qu'il a fait ont pu être déchirants pour lui. Puis on sent bien toute la... le dilemme qu'il vit justement entre les choix qu'il a fait et là la situation dans laquelle il est de devoir faire quelque chose pour sauver son enfant qui a disparu. Donc voilà, aussi un bravo à la mère qui est jouée par Mélanie Laura. Donc qui elle aussi en une seule séquence réussit à nous transmettre tout le poids de justement cette ex-femme abandonnée qui a dû conjuguer avec élever son enfant et essayer de se faire une vie avec son nouveau conjoint. Donc, dans les premières minutes du film, la table est assez rapidement mise. Moi, j'ai su, là, après 10 minutes, pas mal, c'était quoi le fin mot de l'histoire.
Okay.
Mais le but d'écouter le film, c'était de savoir comment on arrivait à cette finale-là. Fin-là. C'est ça. Et là, on reste... moi, je suis restée quand même... je dirais pas subjuguée, c'est un peu intense. Mais je suis restée captivée quand même. Je voulais savoir ce qui s'était passé. Puis ça se déroulait à un assez bon rythme, là, qu'on pouvait rester... une attention soutenue, tout de même. Donc, voilà. Finalement, 1h25, c'est juste la bonne longueur pour ce film. Un mot sur la fin. Dans ce type de film, on se dit toujours, bon, nul ne peut se faire justice soi-même. Je dirais simplement que dans ce film-là, la question est abordée de façon simple et efficace. Et ça m'a plu. Donc, voilà.
Ben, c'est bien. Un bon 7 sur 10.
Oui, 7 sur 10.
Excellent. Est-ce qu'il va revenir? Il revient.
Non, il ne revient pas à l'écran. Mais en fait, pas dans le cadre du festival.
Peut-être le verront-on.
Puis je terminerai en disant que c'était un bon film, mais là, je ne pense pas qu'on va en parler dans 20 ans.
OK.
Ah, bon, ben, c'est ça. D'où le 7 sur 10.
On se revoit dans 20 ans, groupe.
Même heure, même poste.
Oui.
Et voilà. Alors, moi, je vais vous parler. Je ne sais pas pourquoi on est dans le. Moi, je suis resté en Afrique, mais complètement. Donc, film franco-congolais de mon côté, plus précisément de la République du Congo, parce que bon, ça peut être mêlant, tout ça. C'est écrit et réalisé par Machiri Ekwa Bahango, le film Makila qui nous amène dans l'univers déstabilisant des enfants de rue au Congo. On rencontre Maki, une fille de rue de 19 ans, mariée à Mbingazor, un caïd albinos de la localité. Les jeunes survivent dans des conditions misérables grâce au vol, à la prostitution, à la drogue. C'est pas Jojo, on va se dire, là.
Ouais.
Mais un jour, elle rencontre Acha, donc une fillette, qui a fui sa famille après avoir été violée par son oncle et... elle se lie d'affection pour Maki. Ça va pas très bien, hein?
Oui, non,
mais elle se lie d'affection pour Maki qui devient en quelque sorte sa seule famille. C'est une forme de sécurité pour elle. Et c'est donc un film très coloré, en même temps pénible de temps en temps, avec des moments plus légers quand même pour nous faire respirer. Je pense que c'est une incursion assez honnête dans ce monde-là de violence, de drogue et de pauvreté. C'est bon au niveau... c'est bon au niveau de cette incursion-là. Au niveau technique, cependant, donc évidemment, c'est un film qui me semble avoir été fait avec un budget restreint. Il y a plein de choses à dire sur ce film-là. Je pourrais pas passer trop de temps là-dessus. Mais en gros, je dirais que la forme est moins importante que le fond. Je recommande ce film-là si vous avez envie donc de voir comment cet univers-là fonctionne. Chose intéressante à savoir, c'est que la réalisatrice, en fait, c'est basé sur des faits vécus jusqu'à un certain point. La réalisatrice a fait une fugue de quelques jours quand elle était jeune et s'est retrouvée dans ce milieu-là. Et elle voulait raconter ce qu'elle a vécu. Est-ce que le personnage d'Acha est inspiré d'elle-même? Aucune idée. Mais je donne un 8 sur 10 à ce film-là.
Quand même.
Donc, le film Makila, pas toujours agréable à regarder, mais pertinent. Et on en sort avec certaines réflexions sur notre vie. Donc, voilà.
Donc, on y va.
On y va, certainement. Mais il ne revient plus. Donc, voilà.
On y va plus.
Exactement. Alors, je te laisse la parole pour le dernier film.
Le dernier film. Alors, donc, je termine avec celui que j'ai le moins aimé, Un peuple et son roi. Et je vais y aller d'emblée avec la note. Je n'ai 4 sur 10. J'aurais des choses à dire pendant toute une émission complète sur pourquoi j'ai donné 4 sur 10. Bon, d'abord, c'est pas pour la raison pourquoi je l'ai pas aimé, mais mise en situation, drame historique franco-belge, écrit et réalisé par Pierre Scheller. Donc, un petit brin de synopsis. Entre 1789 et 1793, s'écrivent plusieurs chapitres de la Révolution française, donc, qui culmine avec la décapitation de Louis XVI, laquelle est évidemment acclamée par le peuple qui l'a vivement demandé. Mais avant d'en venir là, on fait visiter les jalons de l'histoire du point de vue du peuple qui veut s'émanciper. Et tout le film, en fait, un des problèmes majeurs du film réside là, c'est que dès le début du film, on se fait lancer plein d'informations. Donc, on a une scène avec le roi qui lave les pieds des pauvres. Ensuite, on a des gens qui débattent. On a les pauvres dans leur quartier, là, la prise de la Bastille. On ne sait pas vraiment où on est. Puis ça prend un certain temps avant qu'on se situe qui est-ce, de qui on parle. Qui est-ce qu'on veut suivre là-dedans? Qui a le propos principal? Donc, le rythme également est très saccadé. Là. C'est sûr, on veut couvrir 4 ans en 2 heures. On passe d'une affaire à l'autre avec des sous-titres. Là. Ben, pas des sous-titres, mais des écritures, n'est-ce pas, dans l'écran, qui nous disent « on est rendu à telle date, by the way ». Puis, en fait, ce qui est bizarre aussi, c'est qu'à travers tout ça, on dirait que les personnages n'évoluent pas tant que ça.
Okay.
Donc, il se passe 4 ans, mais les personnages sont toujours les mêmes du début à la fin. Tout est fait en tableau. Il y a des fois des scènes où on s'arrête, là, ralenti, là, une petite fille qui danse sous la neige, nu-pied, pendant je ne sais pas combien de temps, avec une musique vraiment trop... Moi, j'ai pas cru du tout, là. Et puis, donc, plein de métaphores aussi. Après ça, cette petite fille-là, elle danse dans des plumes. Donc, c'est ça. Il y a un cheval. On voit un cheval à plusieurs reprises.
Y a-t-il des défis à cocher, lui, de sa liste?
Oui, je sais pas.
Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Il y avait des défis à faire.
Il y a des défis. Comme danser avec des plumes. Regardez-moi aller.
C'est quand même...
Donc, j'aurais aimé... qu'on prenne le temps de mieux camper les personnages. J'ai rien à redire comme tel pour la beauté des images, tout ça. C'était quand même beau, mais c'était pas incroyable. C'était pas marquant. Donc, dès les 15 premières minutes, j'ai regardé ma montre et je me suis demandé combien de temps ça dure, ce film-là.
Ça dure
2 heures.
Après 15 minutes, quand même?
Après 15 minutes, là, je me demandais où est-ce qu'on s'en allait parce que déjà, là, dès le début, là, j'étais comme, voyons, on est donc bien éparpillés. Puis en fait, c'est ça, c'est que tout le long du film, on s'éparpille en diverses choses. Mm. Et d'ailleurs, je vais dire, il y a un aspect assez scolaire dans ce film-là parce qu'on assiste au débat là, de la première assemblée puis la déclaration des droits et tout ça. Mais c'est quasiment texto, là, les vrais discours qui sont prononcés. Mm. Et c'est extrêmement lourd.
C'est pas tant intéressant pour l'histoire.
Non, c'est ça. On a d'un côté les gens qui vivent une situation de pauvreté extrême et qui demandent la décapitation. Ben, pas la décapitation, mais la déchéance du roi. Donc, puis de l'autre côté, on a ces discours-là qui sont intrinsèques à la Révolution, mais malheureusement, il n'y a pas de fluidité entre les thèmes dans le film. Ouais. Apparemment qu'il existerait une suite en préparation.
Ça te motive, ça?
Oui, moi, beaucoup. Ce serait sur la glace, à ce qu'on m'a dit dans les interviews.
Mais parfois, la suite est meilleure que...
Si jamais ça sort, je vais le voir juste pour voir s'ils ont rectifié le tir.
Mais peut-être là, ils sont rendus 2 à danser dans les plumes au ralenti. on repousse les limites à chaque fois.
C'est de toute beauté.
Je veux dire, en terminant, que la musique signée par Philippe Scheller, donc le frère de Pierre, le réalisateur, lui, moi, je ne trouvais pas du tout que ça l'aidait le propos. Là. J'ai lu des articles où est-ce qu'il dit que il voulait vraiment faire ça pour que ça souligne. Non.
Il voulait juste donner un coup de main à son frère.
Ouais, ça passe d'une affaire à l'autre aussi. C'est très disparate. Il n'y a pas de... Puis, dernière chose, vraiment, cette fois-ci, c'est vrai, mais il faut qu'on en parle. Les chants populaires. Les chants populaires qui, apparaît-il, à ce moment-là, étaient vraiment populaires, c'est le cas de le dire. Puis il y en avait tout le temps, si bien que dans le film, alors on se ramasse souvent comme ça à pousser une petite chanson. On s'en va à Versailles, parfait, pousser une chanson.
On est comme dans Walt Disney, le rendu là.
Oui, ouais, c'est ça. Puis
Kanjo aussi faisait ça.
Oui, ce qu'on lit en fait, c'est que il voulait pas justement apposer les chansons sur le film, mais plutôt que ça s'intègre bien dans l'émotion véhicule par les personnages. No way, man.
Eh bien, donc tu as donné combien sur 10?
4
sur 10.
C'est généreux.
Ça fait mal. Excellent. Merci beaucoup Julie pour cette critique.
Ça fait plaisir.
Fort pertinente. De retour à Cinébrunch, toujours en compagnie de Mélina Lopez-Nado, François Genet, Julie Desmarais et moi-même, Jim Boulay. On est dans cette émission spéciale qui traite du Festival du cinéma du monde de Sherbrooke. Dans une 5-6 minutes, on va avoir la chance de continuer nos critiques des films qui étaient présentés lors du festival. Mais entre-temps, je veux vous parler d'un film qui était à l'affiche donc, dans tous les cinémas au Québec. Ben, peut-être pas tout, là, mais tous les bons cinémas au Québec. Donc, un film français donc, qui s'appelle « Sauver ou périr ». Donc, un drame français plus précisément, écrit et réalisé par Frédéric Tellier, qui avait eu un certain succès en fait en 2015 avec le film « L'affaire SK1 ». Donc, SK1, bref, une affaire d'armes et de trucs violents. On change.
On dirait ma mère, mon doux.
Des trucs violents.
On salue donc la mère de François.
Bonjour, elle.
On change de registre dans ce film qui met en vedette Pierre Niney, qu'on a vu notamment dans le rôle de Romain Gary dans le film La promesse de l'aube l'an dernier. Un homme qui a un nom qui sonne vieux alors qu'il est quand même assez jeune. Aussi dans ce film, Anaïs Dumoustier. J'aime ça faire des petits commentaires comme ça. Anaïs, et non pas Amaïs Dumoustier, c'est pas la saison, que je trouve en fait une actrice vraiment intéressante, mais qui collectionne normalement les rôles secondaires. Donc aussi dans le film, il y a Vincent Rottier et Chloé Stéphanie qu'on connaît peu, pour ne nommer que ceux-là. Voici donc, sans plus attendre, la bande-annonce du film « Sauver ou périr ».
J'ai jamais été le plus grand ou le plus costaud, mais justement. J'aimais l'idée que ce métier puisse me rendre fort. Invincible, d'une certaine manière. La vérité, c'est que personne n'est invincible.
Donc, c'était la bande-annonce de Sauver ou périr. Dans ce film-là, qui est inspiré de faits réels, on apprend à connaître Franck. Hein? Prends-le pas personnel, François.
Oui, non.
c'est un sapeur-pompier qui vit sur une caserne parisienne, donc à Paris, avec sa jeune femme enceinte de jumelles. C'est un être généreux qui se donne dans son travail, comme on l'entendait dans la bande-annonce. C'est quelqu'un avec une certaine humilité. Un jour, on lui donne un rôle de haute responsabilité au niveau des incendies. Il se retrouve à être grièvement blessé et lorsqu'il se réveille après des mois de coma, il découvre qu'il est dévisagé et donc tout ce qui vient avec ça. Ce qui est vraiment le fun dans le film « Sauver ou périr », c'est qu'en fait, on découvre l'univers assez méconnu des pompiers parisiens, d'abord et avant tout. Un univers extrêmement militarisé, ce qui n'est pas le cas au Québec. On est dans un endroit où on salue, on garde à vous, tout, c'est très, très militaire. On est complètement dans une autre dynamique. Je pense que c'est beaucoup plus difficile, plus exigeant. Entraînement physique non-stop, c'est extrêmement exigeant. Et ça, c'est intéressant à voir aller. Maintenant, l'incendie comme tel arrive seulement à 30 minutes dans le film. Désolé pour ceux qui ont le compas dans la tête. Mais en gros, on a une bonne demi-heure pour apprendre. Donc, pour oublier que ça va se passer, parce qu'on le sait avant d'aller voir le film, là, ce qui va arriver. On a une demi-heure à peu près pour l'oublier et juste découvrir ce jeune homme-là dans son métier, qui se rend sur des accidents comme premier répondant, des choses comme ça. Et ça, c'est super intéressant. Après, il y a évidemment tout l'aspect du rejet pour un grand brûlé. Évidemment, de voir la peur dans les yeux de tes enfants qui voient ton visage pour la première fois, qui est complètement saccagé. Le désir de ta copine qui peut être affecté, la dépression, les gens qui te protègent ou qui te surprotègent, la difficulté de trouver un emploi. Autrement dit, jusqu'où le physique est important autour de soi dans la perception des gens sur nous-mêmes. Et je pense que le réalisateur voulait nous faire vivre ce que ressent Frank, donc Franck. c'est un français, hein?
Oui.
Donc, Franck. Sa réalité qui change
en quelques minutes seulement, parce que cette personne-là, il se donnait. Ouais. Lui qui voulait investir et qui risquait sa vie pour aider les autres, ben, aujourd'hui, il regarde autour de lui et il est tout seul, entouré de gens qui fuient son regard ou qui le dévisagent. Je sais qu'on sait tous ça, mais de le voir comme ça dans le film, ça... on le comprend, on dirait. Et on le comprend, on le vit comme l'acteur le vit, comme le personnage le vit. Puis ça, c'est... franchement, ce film-là n'a pas une si bonne note que ça, on va se le dire. Là. C'est pas un grand film. Mais il amène des choses assez uniques, des choses qui honnêtement, que j'ai pas vu moi, dans d'autres films, amener aussi bien. Il y a des longueurs, il y a des moments un peu plates, effectivement. Mais c'est le fun. Ben, c'est pas le fun pantoute, mais c'est intéressant de vraiment ressentir ce que cette personne-là vit une fois qu'elle est devenue un grand brûlé, alors que dans le fond, elle n'a pas changé en dedans. Là,
non, c'est ça.
Tu te réveilles, donc, le film réussit à traduire ça.
Il réussit à traduire ça. Et ça, franchement, je donne vraiment un chapeau au réalisateur pour avoir réussi à faire ça. C'est évidemment un film de résilience qui réussit tout à fait son pari. Donc, de rendre accessible à regarder des images comme ça, ce film comme ça, qui n'est pas trop dégueu à voir, honnêtement. Je m'attendais à des trucs un peu plus dégueulasses. Puis si vous regardez la bande-annonce, vous allez voir, t'sais, bon, oui, il y a un masque, à un moment donné, il n'y a plus de masque, puis ouais, le visage est un peu défait, mais ce n'est pas dégueu, là, t'sais, c'est pas ensanglanté ou des choses comme ça. Donc, c'est accessible, plus qu'on pourrait penser aux gens. Mais bref, c'est ça. Donc, un film vraiment intéressant.
Donc, on sauve ou on périt pour le film?
Sauver ou périr, je te dirais que le film est sauvé.
Le film est sauvé? Ah.
Voilà. Oui. Avec ça finit bien, ça finit mal, c'est à vous de vérifier. Je donne un 8 sur 10 donc, au film.
Oh,
il est encore au cinéma donc pour un certain temps, si vous voulez aller le voir. Entre deux films du festival, c'est toujours agréable.
Le mec averti ou...
Pas vraiment. Okay. Public.
Accessible. Quand même.
Accessible, oui. Bon, c'est certain, c'est pas un divertissement de l'esprit, là. On est quand même dans un film relativement dramatique, mais qui s'allège en continuant. Donc voilà, c'est tout pour ma critique de Sauver ou Périr. Alors allez voir ça si ça vous intéresse. Je lui ai donné un 8 sur 10. Voilà, donc, c'était un court intermède musical. Hein? Alors, voilà, c'est le moment de continuer notre émission spéciale sur le FCMS. Et vous allez, Mélina et toi, critiquer des films. Mais je pense que tu as le premier mot de la chose.
Oui. Tout à fait.
Tu nous présentes quoi?
Oui, je suis allé voir Ziva Postek, la monteuse derrière le film Shoah. Et voilà, on n'a plus le temps pour le critiquer. C'était trop long comme nom de film. Non, c'est un documentaire, en fait, par la réalisatrice Catherine Hébert. En fait, ça, c'est un documentaire qui est un documentaire sur un documentaire. C'est ça vraiment le fun. T'sais, c'est comme un documentaire dans le documentaire. C'est magique.
Mise en abîme.
Oui, c'est exactement. Ouais. Exactement. Et moi, j'ai passé le début du film à pas comprendre parce que quand tu lis le titre, là, tu penses que ça va être quoi qu'on va parler? Tu penses que nécessairement, on va parler du film Shoah.
Moi, je me dis
puis c'est la monteuse.
Le making of.
C'est ça, le making of, un peu comment ça s'est fait. Au début, on arrive, puis Mondo est en train de se magasiner des trucs dans un magasin. On la suit, c'est long, c'est assez lent comme documentaire. Ouais. On laisse aller les choses, tu sais, fait qu'on la voit ouvrir des boîtes, magasiner, puis on est comme, je la connais-tu, cette personne-là? Tu sais, c'est ça. Mais après ça, tout doucement, on commence à saisir le truc parce que, dans le fond, Shoah, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est un documentaire. Ils ont filmé 350 heures de film en pellicule.
Wow!
C'est assez intense. Le gars, il partait la caméra puis il essayait d'interviewer du monde qui ont vécu des trucs dans la Seconde Guerre mondiale. Donc, des Juifs qui ont survécu ou qui ont connu des trucs. Il partait à la caméra, il partait en char puis à un moment donné, il voyait du monde. « Ah, as-tu vécu quelque chose? Oui, ben raconte-moi-le. » Puis ça va être ça. Fait que faire le montage de ça...
350 heures.
C'est pas le fun, là. T'sais? Puis on s'entend que c'est pas numérique, là. Ouais. T'as pas Windows Media Player, là, puis Windows Media... Mais Move Maker, c'est ça, tout à fait. T'as pas ça, là. Fait qu'il faut que tu coupes à des pellicules. Ouais. C'est long, c'est intense, et le film dure plus de 9 heures. Le montage final dure plus de 9 heures.
Imagine.
C'est intense.
C'est incroyable. Et là, le film est sur la monteuse.
Et sur la monteuse.
Pas
de
le réalisateur. Là.
Non, exactement.
Sur la monteuse.
Exactement. C'est quand même un exploit qu'elle a accompli. C'est
parce qu'au final, on se rend compte dans le documentaire que le réalisateur, il n'a pas fait grand-chose parce qu'il ne connaissait pas vraiment. C'est un journaliste plus que d'autres choses.
Okay.
Puis il ne connaissait pas grand-chose à ça.
Il faisait une collection de données. Puis,
fait que, ouais, ben, il a pris des trucs, il a envoyé ça. Puis au final, c'était presque elle. Puis au final, on n'en a jamais entendu parler, ou presque, parce qu'on a toujours mis ça sur le réalisateur. Mais au final, lui, il a envoyé ça. Puis il n'a pas fait grand-chose là-dedans. Donc, c'est quand même assez intense. Ça a pris 6 ans de montage. Puis on se rend compte que les 6 ans de montage, au final, c'est quasiment... ça l'a détruit un peu mentalement. Ça a été vraiment compliqué pour elle. Après ça, ça a été un parcours quasiment comme si elle avait vécu son propre camp à l'intérieur de ça. C'est un peu spécial.
Comme à force de voir 350 000 heures d'images,
ben,
c'est sûr.
C'est horrible aussi, tu sais, exactement. C'est donc, c'est quand même intéressant. Vers la fin du film, on commence, parce que à un moment donné, quand on commence à parler du film, puis qu'on commence à comprendre, ah oui, ok, c'est elle qui faisait le montage, puis on commence à comprendre la patente, là, ça commence à être vraiment intéressant parce qu'on s'attache à la personne, donc à Ziva. On s'attache à elle, puis là, quand on vit d'autres trucs après ça, puis elle raconte sa fille, qu'est-ce qui se passe, elle commence à détruire un peu sa vie, puis commence à jouer là-dedans, ben là, après ça, on s'attache au personnage. Mais au début, pendant peut-être 15 minutes, après, au début, on sait pas trop ce qui se passe, puis c'est quoi le but réel de ça. Donc, moi, c'est peut-être mon seul côté, j'aurais aimé avoir plus peut-être de trucs d'archives. Il y a quand même des trucs d'archives, des trucs inédits qui ont été coupés dans le 9 heures. On parle aussi avec du monde qui ont restauré les trucs de la Shoah, donc c'est quand même intéressant. Ouais. Donc pour les gens qui aiment l'histoire, qui aiment
sur
la guerre mondiale aussi, il n'y en a pas trop beaucoup sur la guerre mondiale, je m'attendais à plus que ça aussi. Mais c'est quand même intéressant pour tous ceux qui aiment ça, l'histoire, puis le film Shoah, si vous l'avez vu. Si vous avez vu, là, évidemment, c'est encore mieux.
Oui, mais c'est sûr que ça doit être encore plus intéressant. Là,
oui,
mais...
tout à fait. Mais moi, je ne l'avais pas vu, puis j'ai apprécié quand même.
Mais le film final dure combien de temps?
Plus de 9 heures. 566 minutes.
Hey, mais non, mais il n'y a pas un cinéma qui passe un truc comme ça. Là.
Non.
C'est pour ça que ce film-là, il doit être connu d'une petite.
Les historiens disent que c'est une des seules façons qu'ils ont réussi vraiment à mettre en image des trucs qu'on savait déjà, mais de vraiment réaliser.
Ça donne envie, mais en même temps, c'est quand même une journée complète là, de travail à regarder un film.
Mais pour vrai, moi, ça m'a donné quand même le goût de le voir parce que 6 ans de montage, je me dis, il n'a pas fait ça pour rien.
Non, c'est ça.
Non, mais il doit avoir un travail incroyable de sélection là-dedans.
Une persévérance.
Elle a tout écouté pendant 4 mois, puis elle a fait des résumés de chaque interview pour essayer d'aller ressortir les affaires intéressantes.
C'est un travail de classement
donc,
à faire.
Exactement. Ouais. Donc, elle a mis toute sa vie un petit peu en veilleuse là-dessus. Donc, c'est en apprend beaucoup sur les documentaires aussi. Comment on monte un documentaire.
Ouais.
C'est vraiment intéressant de voir ça aussi, qu'est-ce qu'on choisit, puis comment on raconte notre histoire. Donc, je vais donner un 7 sur 10. C'est bien et c'est intéressant. C'est sûr que le début, c'est un peu lent, mais accrochez-vous parce que la fin est intéressante. Et donc, c'est en reprise le jeudi 11 avril à 15h. Donc, allez voir ça.
Allez voir ça.
Tout à fait.
Ça vaut la peine. Là, c'est mon tour. En fait, moi, je suis... premier film que je suis allée voir dans le cadre du festival, c'est le film, ça s'appelle « Trois faces ». Le titre original, c'est « Serouk ». Donc, c'est un film iranien.
C'est pas « Trois visages ».
Trois visages.
C'est ça que j'ai dit, non?
Trois faces. Oh, mais je pense que dans la version... européenne, ça s'appelle Trois Faces.
Tout à fait.
Ça se peut. Trois visages. Mais pardonnez-moi, pourtant, c'est ça que j'ai ici, Trois visages. Dans le fond, je vais vous lire le résumé. Donc, une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante vidéo d'une jeune fille implorant son aide pour échapper à sa famille conservatrice. Elle demande alors à son ami, le réalisateur Jafar Panahi, de l'aider à comprendre s'il s'agit d'une manipulation. Ensemble, ils prennent la route en direction du village de la jeune fille dans les montagnes reculées du nord-ouest où les traditions ancestrales continuent de dicter la vie locale. Donc, il y a des choses assez particulières dans ce film-là. Et la première, c'est que les deux acteurs principaux, donc, ils jouent leur propre rôle, si je veux dire. Donc, les personnages qu'ils jouent s'appellent par leur nom. Donc, la célèbre actrice, elle s'appelle dans le film Jafar Pahani. Non, elle s'appelle Benaz Jafari, mais dans la vraie vie aussi, elle s'appelle Benaz Jafari. Et Jafar Pahani, qui est le réalisateur, il joue aussi un réalisateur dans le film.
Oh, wow.
Donc, on essaie de donner à ça des allures un peu de fiction, de documentaire. Mais ça reste une fiction. Écoutez, moi, je suis pas tant familière avec les films iraniens à la base. J'ai pas aimé le film vraiment. Je trouvais que c'était lent, donc il ne faut pas s'attendre à quelque chose de rapide. C'était un film qui était extrêmement lent, qui ne levait pas. Vraiment des longs plans, des plans de loin, on ne veut pas trop montrer les choses. on fait beaucoup d'annonces qui finissent par jamais aboutir. Donc, on montre des trucs juste pour montrer des trucs. Puis, c'est pas tant cohérent qu'on y pense parce que, justement, la célèbre actrice là, qui est genre full populaire, puis qui reçoit une vidéo, puis qui est comme « Ah, ben je vais aller investiguer qu'est-ce qui se passe avec cette fille-là dans le village perdu. » Moi, j'ai pas trouvé ça crédible. C'est sûr qu'au niveau de l'acting, là, quand même, il était bon, mais j'ai pas réussi, en fait, à dégager... Ouais, j'ai pas réussi à rentrer dans le film, puis j'ai pas réussi à dégager c'était quoi qu'on voulait... La seule piste que j'ai, c'est qu'au début du film, elle dit à son ami réalisateur, « Je sais que tu m'as parlé de faire un scénario sur le suicide. » C'est la seule chose qu'on a, c'est la seule piste.
Ouais. Tout le long, tu ne sais pas où est-ce qu'on va
emmener. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu montrer avec ce film-là. On n'aborde pas tant le suicide non plus. On n'aborde pas tant ces choses-là. Fait que j'ai pas réussi à dégager
Je pense que tu n'aimes pas le cinéma iranien.
Ben, je ne sais pas, mais ce film-là, j'ai pas réussi à dégager le propos principal du film. Mais, je veux dire, la salle était quand même assez bien remplie. Je crois que les gens ont aimé le film. C'est peut-être, comme Jim le dit, seulement moi qui n'aime pas le cinéma iranien. J'ai trouvé ça extrêmement lent. J'ai trouvé ça lent et long et j'avais les paupières qui se fermaient. Et je sais pas, là, pour moi, le film a duré 3 heures. Là. C'était long.
Alors,
là,
moi, je suis allé avec toi puis j'adorais ça. Il n'a pas fermé les yeux du tout.
Je dis à Jim, c'est lui qui aurait dû critiquer le film parce que lui, il a beaucoup
aimé. Donnez chacun votre note là, pour les besoins de la cause.
Moi, j'y donne un 4.5.
Oh mon Dieu. Non, moi, je donne un 8.5. J'ai adoré ce film-là dans tous les points. Si vous aimez le cinéma iranien, allez voir ça, c'est extraordinaire.
Wow. Il y a tous les fans du cinéma iranien.
C'est un appel à tous.
Voilà.
Donc,
À François. Oui. C'est à François. Merci, Mélina.
Je continue avec un autre documentaire. Moi, j'ai vu beaucoup de documentaires. Amal, le documentaire Amal du réalisateur Mohamed Siam. En fait, ça parle de... Il a suivi une jeune adolescente égyptienne à partir de 15 ans au début, puis jusqu'à ses 20 ans. Et c'est dans une Égypte après le post-révolution, en fait. Il y a une révolution, hein, on sait tous, avec les révolutions qu'il y a eu dans les printemps. Sinon, on avait le printemps arabe. Donc, il y a eu le printemps arabe, c'est ça que tout le monde dit. Mais au final, non, c'est pas nous qui a commencé ça. C'est ça l'affaire, exactement.
C'est pas la même envergure non plus.
Donc là, on vit un peu le printemps arabe et par ce documentaire-là. Et c'est vraiment assez magnifique. Donc, c'est une adolescente assez insurgée qui s'en va donc dans les rues et on peut vivre un peu la révolution à travers le personnage d'Amal. En fait, c'est une vraie personne parce que c'est un documentaire, donc c'est pas un personnage.
C'est un documentaire filmé lors des événements ou
oui, exactement. On suit pendant 5 ans. Okay. C'est vraiment vrai, mais c'est quand même intéressant que tu apportes ça parce qu'on ne se rend pas compte que c'est un documentaire. C'est tellement bien fait que c'est bien joué. Ils font comme si la caméra n'était pas là. Pour vrai, donc, on fait juste suivre ça comme si on était une caméra invisible puis qu'on est capable vraiment d'être un petit oiseau. Tu sais, des fois, on dit on aimerait ça être un petit oiseau pour voir ce qui se passe. Mais là, les gens, ils ne réagissent pas avec la caméra. Donc, c'est vraiment le fun parce que ça te permet d'avoir vraiment de rentrer dans le film. Ah ouais. C'est vraiment magique pour
la
ça.
Ah, ça, donc, c'est bien, ça.
C'est vraiment bien. Puis, mais c'est des fois intense parce que c'est la révolution. Il se passe des affaires, du monde qui se font tabasser. Il y a des affaires qui arrivent. Mais je pense que c'est nécessaire des fois pour comprendre ça. C'est sûr qu'il ne faut pas juste s'arrêter à ça parce que ça, c'est la vision d'une personne sur ce conflit-là. La vision d'Amal.
Documentaire, donc, évidemment, il y a un point de vue.
Exactement. C'est le point de vue d'Amal sur la situation. Fait que c'est un point de vue d'une adolescente. Puis justement, au début, elle a 15 ans. Après ça, 16, 17, comment elle gère le côté féminin aussi. Ouais. Parce qu'elle essaie de se faire passer pour un homme pour rentrer dans la gang parce que les femmes ont moins de privilèges. Donc, c'est quand même intéressant de voir ça. Et il y a aussi des caméras, des vidéos de jeunesse. À chaque fois qu'elle se faisait fêter sa fête, son père prenait des vidéos. Et il intègre ça dans le film. Donc, on est capable de passer puis de voir, dans le fond, quand elle était jeune, jeune, puis qu'elle avait de l'insouciance, puis qu'elle était joyeuse. Mm. Puis là, après ça, la voir complètement insurgée, puis être triste, puis être en colère contre le mouvement. Donc, c'est vraiment beau
à
voir.
Ça ajoute beaucoup de crédibilité.
Ça ajoute, ouais, effectivement. Puis les liens entre ça, les transitions sont vraiment bien faites au niveau montage et réalisation de ça. C'est vraiment très bien fait. Puis surtout qu'on a parlé tantôt du montage d'un documentaire.
Ouais.
Là, on l'a pu voir, le message, comment tu transmets ça, puis comment tu fais le montage de ça. Puis ils ont réussi à aller chercher des images vraiment, vraiment magnifiques. Puis après ça, comment ils l'ont monté, c'est vraiment magnifique. Donc, pour vrai, j'ai vraiment un beau coup de cœur pour ça. C'est vraiment quelque chose de... Puis malgré ça, malgré le fait que c'est lourd, il y a eu quand même des rires pendant la séance. Donc, les gens ont ri quand même. Il y a eu des petits moments comme ça qu'on est capable de...
C'est on pas relâche trop... l'attention.
Exactement.
C'est comic relief, comme on dit.
Exactement. Donc, c'est quand même intéressant pour ça. Donc, je donne un 8.5.
Excellent. Oui, révolution pour révolution. On va aller voir ton film et non le mien. Finalement.
Oui, exactement. Tout à fait. Et ça passe en reprise. Donc, si vous l'écoutez live, Cinébrunch...
Dépêchez-vous.
Dépêchez-vous, parce que c'est ce soir, samedi, le 6 avril, à 20h30. Alors, allez voir ça. Courez.
Excellent. Ça. Merci beaucoup, François. Mélina.
Oui, donc, le deuxième et dernier film que j'ai vu dans les derniers jours pour le festival, c'est le film... Donc, hier, c'est ça. Las Herederas, qui veut dire les héritières en français. Donc, c'est un film paraguayen. C'est intéressant quand même. Hein? Donc, ça se passe au Paraguay et on suit Chela, qui est une riche héritière, qui a mené la grande vie pendant 30 ans avec Chiquita, qui est sa copine. Mais au bord de la faillite, elle doit vendre tous ses biens et regarde Chiquita, accusée de fraude, partir en prison. Alors qu'elle n'a pas conduit depuis des années, Chela accepte de faire le taxi pour un groupe de riches femmes âgées de son quartier et fait la rencontre de la jeune et charmante Angie. Mm-hmm. À ses côtés, Chela prend confiance en elle et cherche à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Très intéressant. Et dans le cadre du festival, des fois, on a droit à des gens qui viennent faire une petite présentation du film. Et ce que la dame expliquait avant de présenter le film, c'est que, bon, le Paraguay, comme on dit, c'est assez conservateur et l'homosexualité n'est pas encore vraiment très bien acceptée. Donc, ce film-là, là-bas, a quand même fait... assez que la sénatrice, quand ils se sont fait, sont allés recevoir un prix, je ne sais pas quoi, au gouvernement. Et il y a une sénatrice qui était vraiment fâchée, qui a commencé à crier des obscénités à l'équipe de réalisation du film. Elle s'est excusée par la suite, mais ça l'a fait réagir, semble-t-il. On voit pas de scène, on voit à peine de scène intime. C'est vraiment plus sous-entendu que c'est ça la relation entre les deux, parce que c'est quand même des femmes d'un certain âge. Là, on parle de, je sais pas moi, 60 ans peut-être. Donc, c'est intéressant. Et l'actrice principale, en fait, c'est la première fois qu'elle joue au cinéma. Elle, c'est une avocate dans la vie. Et elle a quand même gardé l'ours d'argent. Elle a gagné l'ours d'argent de la meilleure actrice au Berlinale, 2018. Donc, et c'est vrai, elle est vraiment une belle interprétation. On réussit à comprendre ce qu'elle vit et pourtant, elle ne parle pas beaucoup. Et on réussit à comprendre... Et avec très peu de paroles et je sais pas, c'est rare qu'il y ait des interprétations aussi fortes. Gros point négatif du film, c'est rare là, mais c'est le son, c'est le mixage sonore.
Oh, mon Dieu.
C'est la première fois que ça m'a dérangé autant que ça. Je sais pas si c'est vraiment au niveau du mix du son ou si c'était la calibration à la maison du cinéma dans la salle qui était peut-être pas
Moi, des fois quand on reçoit des fichiers pour les festivals, ça peut arriver que le son est...
Et c'est ça, parce que vraiment, là, au début, à un moment donné, ils sont dans le karaoké et le son est vraiment trop fort, là, que c'en est agressant. Et à d'autres reprises, là, des fois... Mais après ça, après un certain moment, ça s'est placé. Donc, j'ai quand même bien aimé le film. Scénario intéressant, c'est un film où on dit pas beaucoup de choses. C'est un film vraiment où il faut faire le chemin par nous-mêmes dans sa tête. C'est un film qui est... Qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes dedans. Donc, ça vaut la peine d'aller le voir. Selon moi, il repasse pas, mais j'ai bien aimé. Donc, je donne un 7 sur 10.
Excellent! Mmh. 7 sur 10. C'est François, ton dernier film.
Un autre documentaire, on est là-dedans.
Alors, on y va là-dedans.
Oui, tout à fait. À la recherche d'Ingmar Bergman. Alors, réalisatrice Margaret von Trotta. Et donc, dans le fond, ça, c'est un peu simple. Dans le fond, le synopsis de ça, c'est... savoir quel est l'héritage de ce réalisateur-là, Ingmar Bergman. C'est pas facile pour ma langue, tout ça. Donc, son travail, sa vie personnelle, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Et c'est exactement ce qu'on pense que c'est. Donc, c'est
un documentaire sur Ingmar Bergman.
Oui, exactement. Et c'est donc...
Mais c'est une personne fascinante, donc ça devait être quand
même. Oui, exactement. C'est ça l'affaire. C'est... Je suis comme déchiré entre les deux côtés parce que je me dis, bon, c'est des interviews, c'est assez classique, c'est juste du monde qui parle entre eux. Mais au final, des fois, ce qu'ils disent, c'est intéressant. Fait que c'est... ça balance pour tout ça. Fait qu'au final, si tu es ouvert à ça, tu passes un beau moment. Puis tu découvres aussi, moi je connaissais pas beaucoup nécessairement son œuvre, j'avais pas nécessairement eu la chance de voir, donc ils mettent des petites parties de ces trucs dedans, de ces films.
Ça permet donc, de mettre quand même, en contexte, c'est cool.
Tout à fait, c'est intéressant, mais si vous aimez pas les phrases creuses, il y en a quand même beaucoup, là. Tu fais pas un drinking game en disant « je vais boire à chaque fois qu'on va dire « l'œuvre de Bergman, c'est… » Bon, ouais, là, tu vas…
On est vraiment là-dedans. L'ambulance. Là.
Fait que, mais des fois, c'est quand même… Mais des fois, il y a quand même des phrases creuses qui valent la peine d'être réfléchies. Puis là-dedans, il y en a quelques-unes quand même. Donc, c'est quand même intéressant, mais quand même assez classique. Là, on réinvente pas la roue du documentaire. Puis, si t'aimes le sujet, tu vas aimer ça. Si t'aimes pas le sujet, ben, t'aimeras pas ça.
C'est classique comme ça. Voilà. C'est dans le très, alors, très classique. Ouais. Tu donnais combien?
Je donnais un 7 sur 10. C'est, bon, c'est bien. C'est bien.
Les 7 sont vraiment variables. Oui.
Et vous pouvez aller le revoir. Vous pouvez aller le revoir le jeudi 11 avril à 15h. Alors, c'est en même temps que l'autre, le premier que j'ai dit, Zvia,
oui,
la soirée, tout à fait.
Oui.
Donc, les deux,
donc,
j'ai donné 7
deux?
Sur... J'ai mis 7 sur 10 sur les deux. Donc, regardez le thème que vous aimez le plus et les deux valent quand même la peine.
Bon. C'est merveilleux, ça. Merci beaucoup, François, pour cette critique et merci à tous d'avoir critiqué. Il y avait pas mal de films, hein, moi, ça le
dit. Oui, oui. Une quinzaine de films, là. Ouais.
Puis, on va pas se coucher tout de suite parce qu'il y en a d'autres.
Il y en a d'autres toute la journée. D'ailleurs, aujourd'hui même, si vous êtes très, très bon à la course, à midi, il y a un super film palestinien, L'invitation au mariage. Sinon, ça repasse donc mercredi à 18h30. Le royaume, le programme des courts-métrages qui va être présenté aussi, ça vaut la peine. Le poirier sauvage, des mentions comme ça que je vous donne, Becoming Astrid, plein de bons films qui s'en viennent.
Oui.
Allez sur le site du FCMS, allez à la Maison du cinéma, allez dans tous les lieux où
et
ça se produit.
Arrivez d'avance.
Oui, si vous voulez une bonne place, c'est quand même nécessaire. Ah, alors voilà, c'est tout pour Cinébrunch cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. Merci Julie, merci François, merci Mélina.
Merci Jim.
Merci à tous nos auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine, samedi 11h en rediffusion à la même heure le mardi et sur toutes nos plateformes, donc téléphone intelligent, sur cinébrunch.com. Merci à tous, à la semaine prochaine. Bonne semaine!
Bonne semaine! Bye bye.